21h à Paris, 23h en temps universel. Bienvenue à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
Emmanuel Macron attendu ce dimanche en Égypte. Le président français tiendra un sommet sur la situation à Gaza. Pendant ce temps, partout dans le monde, des rassemblements ont eu lieu en soutien aux Gazaouis. Plusieurs milliers de personnes en France, aux États-Unis, mais aussi en Cisjordanie occupée. Le secteur de l'automobile se gratte la tête. Comment trouver une solution aux droits de douane américains? Le secteur est frappé par une augmentation des tarifs douaniers de 25%. Près de 8% des ventes mondiales seraient concernés. Dans ce journal également, c'est une arme inattendue. D'après une enquête menée par Reuters, les opérations de sabotage prennent de l'ampleur en Europe. Et puis la crise écologique pourrait précipiter la chute du capitalisme. Un haut dirigeant du monde de l'assurance appelle à des actions urgentes pour accélérer la transition écologique. Partout dans le monde, des manifestations de soutien aux Gazaouis pour dire stop aux bombardements à Gaza. Ces deux derniers jours, des milliers de personnes se sont rassemblées en France, aux États-Unis, en Algérie, en Tunisie, mais aussi en Cisjordanie occupée ce samedi. Ramallah n'est qu'à 90 km de la bande de Gaza. Là-bas, les habitants suivent avec effroi et lassitude la situation sur place. On écoute Rama Youssef, une manifestante, au micro d'Amira Souilem.
On est fatigué, on n'arrive même plus à s'exprimer. On a perdu l'espoir qu'il y ait une solution. Le monde entier regarde cette guerre et personne ne fait rien. On a baissé les bras, on ne croit plus que notre peuple puisse changer la donne par des moyens pacifiques. Tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est se lever, s'opposer à tout cela et revendiquer un droit simple. Celui que notre peuple vive en sécurité, sans guerre, et que nos enfants grandissent sans tuerie. Si on est là aujourd'hui, c'est pour montrer aux habitants de Gaza que nous refusons ce qui leur arrive et que cela nous pèse. Oui, on ne peut rien faire concrètement à part donner à entendre la douleur des Palestiniens. On veut que ça s'arrête. La guerre, mais aussi toutes les formes de souffrance qu'on nous inflige, comme ces checkpoints par exemple, ici, pour nous aussi. On veut la fin de toutes les douleurs que subissent les Palestiniens.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron est attendu ce dimanche en Égypte. Il tiendra un sommet sur la situation à Gaza. Il rencontrera également son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le roi de Jordanie Abdallah II, ce lundi et mardi. Le président français se rendra également ce mardi dans la ville d'Al-Arish, à 50 km de la bande de Gaza, pour rencontrer des humanitaires. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontrera lundi le président Donald Trump à la Maison Blanche. Au menu des discussions, l'Iran, mais aussi les droits de douane. L'addition est salée pour l'État hébreu qui se verra ainsi infliger des tarifs douaniers s'élevant à 17%. Également, première journée de mobilisation nationale aux États-Unis, des milliers d'Américains étaient dans les rues ce samedi. Ils dénoncent les coupes budgétaires et les licenciements de masse de l'administration Trump. Le bras de fer commercial engagé par Donald Trump fait déjà des vagues depuis ce samedi. Des produits du monde entier sont visés par une surtaxe de 10% à l'entrée des États-Unis. Mais dans certains secteurs, l'augmentation est encore plus brutale. L'automobile est frappée d'une augmentation des tarifs douaniers de 25%. La Bank of America, la deuxième banque du pays, estime que plus de 7 millions de véhicules seront concernés. Cela représente 8% des ventes mondiales. Un surcoût majeur pour les constructeurs, d'autant que les pièces détachées seront aussi progressivement concernées. Alors Nathaël Vitran, les constructeurs sont en quête de solutions.
Il faut d'abord s'attendre à des hausses de prix. Bank of America estime que les voitures aux États-Unis vont être vendues 10 000 $ plus chères en moyenne, soit quasiment 20% d'inflation. La marque allemande Volkswagen, l'italien Ferrari ont déjà annoncé des mesures en ce sens. L'américain Chevrolet ou le japonais Toyota, qui ont de nombreuses usines au Mexique et au Canada où sont produits des modèles très populaires aux États-Unis, devraient suivre la même voie. Anticipant les hausses à venir, les acheteurs se sont d'ailleurs précipités. Les ventes ont fortement augmenté en mars. Plutôt que d'augmenter les prix, d'autres constructeurs comme Nissan préfèrent tout simplement ne plus commercialiser certains modèles aux États-Unis. Stellantis a aussi préféré mettre en pause son usine Chrysler au Canada. Enfin, comme l'espérait Donald Trump, plusieurs constructeurs Volvo, Hyundai, Stellantis ont annoncé ouvrir ou rouvrir des usines aux États-Unis. Bank of America prédit 1 million de voitures supplémentaires produites aux États-Unis, mais prévient, cela pourrait prendre des années. Et à condition que le secteur automobile résiste au choc brutal qu'il est en train de subir.
Autre cheval de bataille de Donald Trump, l'immigration. Eh bien, dans un communiqué, Washington annonce sa décision de révoquer tous les visas accordés aux ressortissants du Soudan du Sud. L'administration Trump accuse le pays de ne pas reprendre ses citoyens visés par une mesure d'expulsion. Direction l'Ukraine, Volodymyr Zelensky dénonce la faible réaction de l'ambassade américaine en Ukraine. Après la frappe meurtrière qui a fait 18 morts à Kryvyi, le président ukrainien lui reproche d'avoir peur de mettre en cause la Russie. Il a également salué des progrès sur un potentiel contingent européen en Ukraine en cas de cessez-le-feu, au lendemain de la venue des chefs d'état-major des armées françaises et britanniques à Kiev. C'est une guerre loin des tranchées ukrainiennes. Les opérations de sabotage montent en puissance sur le sol européen et elles prennent parfois des tours inattendues. L'été dernier, des colis contenant des cosmétiques, des coussins de massage et des sextoys ont explosé dans des dépôts. C'était en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Pologne. Des opérations de déstabilisation attribuées à la Russie, selon une enquête menée par Reuters. Anastasia Becchio.
L'enquête se fonde sur le témoignage d'une source proche du dossier polonais et sur des entretiens avec une douzaine de responsables européens de la sécurité. Deux hommes, un Ukrainien et un Russe, sont actuellement emprisonnés en Pologne, soupçonnés d'avoir commis des actes terroristes pour le compte du renseignement militaire russe, le GRU. L'un d'eux est accusé d'avoir emballé et posté des colis contenant un oreiller, des tubes de cosmétiques et des sextoys dans lesquels avaient été placés des mécanismes de détonation préprogrammés. Les dispositifs rudimentaires avaient été fabriqués avec des produits chimiques inflammables difficiles à détecter. Le suspect a déclaré aux enquêteurs qu'il avait été présenté à un agent du GRU par un ami et qu'il communiquait via Telegram. L'autre homme, extradé de Bosnie en Pologne en février, préparait des opérations similaires qui devaient viser des avions en cargo à destination de l'Amérique du Nord, selon les enquêteurs. Les autorités européennes parlent d'une guerre hybride menée par la Russie pour déstabiliser les pays soutenant l'Ukraine. Sollicité par Reuters, le Kremlin dément toute implication dans ses opérations et voit dans ses allégations une manifestation de russophobie aveugle.
À chaque manifestation, sa revendication. En France, moins d'une semaine après la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, le parti d'extrême droite organise un rassemblement place Vauban ce dimanche pour soutenir la chef du Rassemblement National. Mais il n'est ni sain ni souhaitable de manifester contre une décision de justice, déclaration du Premier ministre François Bayrou. De son côté, la gauche contre-attaque et sera aussi dans la rue, place de la République, pour, je cite, rappeler que la séparation des pouvoirs et l'état de droit sont des principes fondamentaux. SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme et le syndicat de la CGT appellent également à manifester le 12 avril. Le capitalisme confronté à sa propre fin face à la crise climatique. Pourquoi ? Eh bien parce que les impacts des événements climatiques extrêmes vont rendre le système financier incapable d'opérer. Dans un texte publié sur les réseaux sociaux, Günther Thallinger, membre d'Allianz, l'une des grandes entreprises mondiales d'assurance, appelle à des actions urgentes pour accélérer la transition écologique. Lucille Gimbert.
En plus des victimes humaines, les événements climatiques extrêmes comme les inondations ou les incendies font des dégâts matériels et économiques de plus en plus considérables en raison du réchauffement mondial. Les assureurs ont historiquement pris en charge ces risques, rappelle ce haut dirigeant d'Allianz, mais nous nous approchons de hausses des températures mondiales où les assureurs ne pourront faire face. Les primes d'assurance vont excéder ce que les individus et les entreprises peuvent payer. C'est déjà le cas dans des régions entières comme en Californie. Sans assurance, une maison ne sera plus hypothécable, la banque ne donnera pas de crédit pour l'acheter. C'est vrai aussi pour les projets d'infrastructure, l'agriculture ou les industries. Bref, Günther Thallinger parle d'un risque systémique qui menace les fondations même du secteur financier et les États n'auront pas les budgets pour gérer. La valeur économique de régions entières sur les côtes ou dans les zones arides va plonger, le système financier vaciller et avec lui le capitalisme tel qu'on le connaît cessera d'être viable, écrit le dirigeant. La bonne nouvelle, les technologies pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre responsables de cette crise climatique sont matures. Le solaire, l'éolien, les batteries, l'hydrogène vert, l'électrification, liste-t-il. Il faut désormais passer à la vitesse et à l'échelle supérieure.
Lucille Gimbert du service environnement d'RFI. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI, bientôt 1h10 à Paris, 23h10 en temps universel.